Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, chers frères, chers fidèles, chers Zacharia. Nulla fidelium mesitudine pascalis est obscuranda festivitas. Que nulle tristesse des fidèles ne vienne obscurcir les solennités pascales. Cette parole de Saint Léon le Grand rentrait bien, cette fête de la Vigile. Après les saints exercices du carême, l'Église entière dans sa liturgie et nous tous en cette Église, nous laissons éclater notre joie. Non pas la joie de ce monde, non pas une joie mondaine, mais une joie toute surnaturelle, une anticipation du bonheur éternel au ciel. C'est que l'Église sait que la joie surnaturelle, nous est nécessaire, car sans cela, eh bien, nous nous laisserions facilement tenter par les joies de ce monde, les joies qui font périr notre âme. Et de plus, eh bien, l'Église sait que cette joie surnaturelle va dans l'ordre des choses, puisque, comme l'enseigne très bien Saint François de Sales, eh bien, nos passions sont comme la manifestation de notre vie intime. Les mondains se réjouissent des choses de ce monde, des biens de ce monde, mais les véritables chrétiens, les hommes spirituels, se réjouissent des choses du ciel. C'est d'ailleurs la parole de Saint Paul dans l'épître de cette vigile. Alors, nous réjouir est un devoir en cette nuit sainte entre tous. Et c'est pourquoi considérons quelques instants les deux grands motifs de joie que l'Église propose à notre méditation. D'abord, la résurrection de notre Seigneur, bien sûr, c'est la première des joies. Et puis ensuite, la régénération, comme la résurrection des âmes qui seront régénérées cette nuit par le Saint-Baptême. Et puis cette cérémonie nous rappelle aussi la propre grâce que nous avons reçue au jour de notre propre baptême. Alors d'abord, la résurrection de notre Seigneur, c'est la première joie, la joie principale de cette fête. Ec nox est in qua destructis vincula mortis, Christus ab inferis victor ascendit. C'est en cette nuit qu'ayant brisé les liens de la mort, le Christ vainqueur s'est levé des enfers. O vere beata nox, qui sola meruit scire tempus et horam, in qua Christus ab inferis resurrexit. Ô nuit vraiment bienheureuse, qui seule a mérité de connaître le temps et l'heure auquel le Christ est ressuscité des enfers. C'est de cette nuit qu'il fut écrit: la nuit deviendra lumineuse comme le jour. Oui, comme il est naturel que l'ami se réjouisse de la joie de son ami, aussi est-il naturel ou surnaturel que nous nous réjouissions de la gloire de notre Seigneur. Cette joie surnaturelle doit être comme une pierre de touche de la sincérité de notre amour envers notre Seigneur. Nous avons suivi notre Seigneur avec douleur dans toute sa passion. Alors comment, en cette nuit, ne pas nous réjouir de le voir ressuscité? Il a été humilié, dit Saint Paul, en se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a exalté, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors nous devons exulter en considérant son corps tout glorieux, tout lumineux, resplendissant de gloire, comme le cierge pascal, qui est la figure de notre Seigneur, resplendit de lumière. Parce que la résurrection de notre Seigneur n'est pas comme les autres résurrections, celle par exemple de Lazare, ou les résurrections opérées par les saints. Parce que ceux qui étaient ressuscités ainsi ressuscitaient avec un corps qui était encore tout mortel et ils vivaient un peu plus longtemps, mais à la fin, ils devaient être soumis à cette loi de la mort. Alors que notre Seigneur, lui, ressuscite avec un corps glorieux, un corps immortel, comme le dit Saint Paul, il ressuscite pour ne plus mourir. Et puis, sa personne éclate de puissance parce que dans les autres résurrections, ce n'est pas celui qui ressuscite qui se ressuscite lui-même, c'est toujours soit notre Seigneur qui ressuscite, donc, par exemple Lazare, ou encore un saint qui ressuscite une autre personne. Mais le Saint Concile de Trente, le catéchisme du Concile de Trente, enseigne bien et insiste sur le fait que c'est notre Seigneur lui-même qui, par sa propre force, sa force divine, se ressuscite lui-même, comme il avait annoncé d'ailleurs lui-même dans l'évangile de Saint Jean, « Je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me la ravit, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » Voilà donc le premier motif de notre joie, la résurrection de notre Seigneur. Voyons maintenant le deuxième motif de joie, puisque la Sainte Église va s'accroître de nouveau par la vertu divine du Saint-Baptême, qui nous rappelle la grâce que nous avons nous-mêmes reçue à l'aube de notre vie surnaturelle. Ec nox est quae hodie per universum mundum in Christo credentes, avitiis seculi et caligine peccatorum segregatos, redet gratia sociat sanctitati. C'est aujourd'hui, cette nuit, qui dans tout l'univers enlève aux vices du siècle ceux qui croient au Christ, les arrache aux ténèbres du péché, les rend à la grâce, les unit à la société des saints. C'est dans l'énumération des effets du baptême. Puisque la puissance de notre Seigneur va se répandre en grâce et en bénédiction, notre Seigneur associe chacun des chrétiens à tous les mystères de sa vie, et particulièrement pour le Saint-Baptême, comme l'enseigne saint Paul. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous marchions une vie nouvelle. Voyons par là que nous sommes véritablement associés au mystère de la mort de notre Seigneur. Nous devons mourir à nos péchés et à sa résurrection par le Saint-Baptême pour vivre une vie nouvelle, c'est-à-dire une vie toute de vertu. Ainsi, la puissance de notre Seigneur, sa grâce, se communique un peu comme pendant la procession, la flamme du cierge pascal s'est communiquée à tous les fidèles. C'est cette grâce de notre Seigneur qui se répand dans le monde, dans le cœur de tous ceux qui veulent accueillir sa grâce. Mais comment va s'opérer ce mystère? Il va s'opérer par l'eau. Vous avez sans doute remarqué que tout à l'heure, le célébrant a plongé le cierge pascal dans l'eau et ensuite a soufflé sur l'eau trois fois. C'est le symbole du baptême de notre Seigneur. Quand notre Seigneur, qui est toujours représenté par le cierge pascal, s'est plongé dans les eaux du Jourdain, pour les sanctifier, pour leur donner la vertu de guérir les âmes, la vertu de les sanctifier. Et c'est pourquoi la Sainte Liturgie insiste beaucoup sur un deuxième grand symbole qui est celui de la traversée de la mer Rouge. C'est la deuxième prophétie. Et puis, c'était aussi chanté dans l'Exultet par le diacre. Ec nox est in qua primum patres nostros, filios Israel, eductos de Egypto, mare rubrum sico vestigio transire fecisti. Voici la nuit dans laquelle, après avoir tiré de l'Égypte les enfants d'Israël, nos pères, vous leur avez fait passer la mer Rouge à pied sec. Et si la liturgie insiste sur cette traversée de la mer Rouge, c'est parce qu'elle décrit d'une manière toute merveilleuse les effets du Saint-Baptême, puisque le peuple élu représente chacun des fidèles qui étaient dans la terre d'Égypte, la terre des idoles, la terre du péché, puisque tous nous naissons enfants de colère, dit saint Paul. Nous naissons avec le péché originel, et c'est important de nous le rappeler, même si nous avons été baptisés tout enfants, presque immédiatement après notre naissance, eh bien, nous sommes quand même nés avec le péché originel, et c'est une pure grâce, une grâce tout à fait gratuite de notre Seigneur, si nous avons été régénérés par le Saint-Baptême. Et puis, bien sûr, c'est particulièrement visible quand un adulte se convertit. Le peuple élu est donc tiré de la terre d'Égypte. Il est guidé par la colonne de feu. Là aussi, vous voyez le cierge pascal qui s'élève comme une colonne. C'est notre Seigneur qui illumine les âmes, puisque chacune des conversions est le fruit des sollicitudes, de la grâce de notre Seigneur qui, petit à petit, par des moyens mystérieux ou plus évidents, a conduit cette âme jusqu'au fond baptismaux. Ensuite, le peuple élu traverse la mer Rouge. C'est bien sûr le symbole du baptême qui lave nos péchés. Et quand le peuple élu a traversé la mer Rouge, elle se referme de nouveau en engloutissant toutes les armées de Pharaon. C'est le baptême qui engloutit totalement le péché, qui détruit entièrement le péché originel, tous les péchés actuels, et même la peine due au péché, de façon à ce que l'âme du catéchumène, du baptisé, du nouveau baptisé, est entièrement pure, toute blanche, toute belle devant Dieu. Ensuite, autres effets qui sont moins décrits, sont surtout le caractère, bien sûr, le caractère baptismal qui fait rentrer le nouveau baptisé dans la Sainte Église, dans le corps de la Sainte Église, et puis en même temps, qui nous ouvre les portes du ciel, comme notre Seigneur l'a dit, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Alors réjouissons-nous de ce baptême, prions pour qu'en cette nuit, il reçoive une mesure abondante de grâce de Dieu, et qu'il persévère jusqu'à la fin. Et prions aussi nous-mêmes, quand nous rénoverons les promesses de notre baptême, eh bien, nous devons prendre cette ferme résolution, comme le dit saint Paul, de vivre une vie nouvelle, une vie toute de grâce. Et remarquez que c'est avec une convenance toute spéciale que, cher Zacharie, vous serez baptisé en cette nuit où nous fêtons la résurrection du Christ, puisque, étant issu de l'islam, vous avez reconnu que le salut ne se trouvait qu'en notre Seigneur et non pas en l'islam. Et il nous souvient qu'une fois, il y a quelques années, un fidèle zélé qui cherchait à convertir les musulmans faisait ici une conférence et il a raconté comment, justement, en parlant de ce salut et de la résurrection, il avait réussi à ébranler un musulman. Il lui avait dit, nous savons que notre Seigneur, que Jésus-Christ peut nous sauver, puisqu'il est ressuscité, il est vivant, et de là-haut, depuis le ciel, il intercède pour nous, il nous ramène à lui. Alors que vous, les musulmans, ceux qui sont restés dans l'islam, eh bien, votre prophète Mahomet est mort. Il ne peut plus rien pour vous. Il est incapable d'être utile à lui-même, et a fortiori, il est incapable d'être utile pour vous. Et ce pieux fidèle, en fait, ne faisait que reprendre une parole très profonde de saint Paul, qui disait « Parce que le Christ demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui ne se transmet point. De là vient aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Cette fête de la résurrection est vraiment la fête de notre Seigneur, de cette puissance de notre Seigneur pour sauver chacun d'entre nous, à condition que nous soyons vraiment fidèles. Et c'est pourquoi nous rénovons les promesses de notre baptême. En conclusion, chers fidèles, tournons nos yeux vers les saints. Nous les avons invoqués tout à l'heure dans ces magnifiques litanies de l'Église, cette foule immense des saints qui nous attendent, qui attendent aussi la gloire de la résurrection, puisque tous ceux qui sont restés fidèles, eh bien, auront part à la résurrection glorieuse de notre Seigneur, comme le dit saint Paul. Le Seigneur Jésus-Christ transformera notre corps si misérable en le rendant semblable à son corps glorieux par sa vertu puissante qui lui assujettit toutes choses. Bien, c'est la grâce de la persévérance finale que nous demanderons spécialement à Notre-Dame en cette nuit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.